Votre invité Ali Badou est la lauréate du prix Goncourt 2016.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Et félicitations.
Merci beaucoup.
Vous savez que vous allez être obligée de chanter ?
Oui, après cette courte nuit, ça va être difficile, mais enfin, si vous m'obligez.
Et après avoir entendu Céline Dion, vous êtes obligée ? Une chanson douce.
Que me chantait ma maman ? Ah, je voulais pas aller plus loin que ça. J'ai pas l'énergie ce matin.
Il y a de la douceur. Vous avez reçu le prix hier, le prix Goncourt. 12e femme en 113 ans. C'est ce que pointait Françoise Chandernagor. Ça compte pour vous, féministe revendiquée?
Bah oui, ça compte pour moi, bien sûr, parce que c'est important aussi de consacrer les femmes en littérature. On est très nombreuses. Et puis, pour n'importe quel écrivain, c'est important parce que les lecteurs sont des lectrices et qu'on rencontre beaucoup de femmes quand on va dans les librairies, dans les festivals, qu'elles ont une véritable passion pour la littérature, en particulier pour le roman. Donc, c'est important aussi de consacrer les femmes en littérature.
Vous dites un écrivain ou une écrivaine ?
Je dis les deux, ça ne me dérange pas.
Le Goncourt, c'est un prix, c'est aussi de l'argent. Qu'allez-vous faire du chèque que vous a remis le président Bernard Pivot hier ?
Ah bah ça, je vais l'encadrer, je vais le mettre au-dessus de ma cheminée, je vais mettre des néons autour pour que tout le monde le voit.
Expliquez voilà. Pourquoi vous n'allez pas l'encaisser.
Parce que ça n'est pas dans la tradition et puis parce que voilà, je vais pas encaisser 10 euros, c'est pour le symbole.
Oui, c'est ça, c'est un chèque de 10 euros. C'est un prix littéraire qui est le roi des prix, voilà. Mais qui est sans doute le moins bien doté. Voilà pour l'anecdote, c'est assez frappant de voir les réactions au Maroc, notamment sur les réseaux sociaux, une fierté, une joie et même la réception de votre roman avant même le prix Goncourt, quand vous êtes allé le présenter à Rabat, à Casablanca. Une foule dans un pays qui pourtant lit peu, voire de moins en moins.
Oui, c'était très 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 émouvant. Je l'ai présenté lundi soir à Casablanca et on a dû refuser des gens parce que les gens se pressaient devant les ascenseurs, devant la salle pour essayer d'entrer. Surtout beaucoup 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 de jeunes, beaucoup de jeunes filles, des étudiantes, des lycéens qui sont venus et pour qui, apparemment, j'incarne quelque chose. Et j'étais très fière parce qu'il y avait une très grande militante marocaine qui a passé beaucoup d'années en prison et qui est venue me voir en me disant finalement, je me rends compte que militer c'est peut-être ça, c'est peut-être incarner. Tu n'as pas besoin de parler de la liberté de la femme, tu es une femme libre et tu es là et tu parles aux gens. Et finalement, l'incarnation, ça peut avoir aussi beaucoup de poids dans un pays comme le Maroc. Et voilà, et j'étais très touchée par les réactions des étudiants et des étudiantes qui sont venus me voir.
Avec des jeunes filles qui ont aussi envie peut-être de prendre la plume. Et ça, c'est formidable quand on est écrivain et qu'on peut susciter une vocation.
Oui, et puis c'est difficile dans un pays comme le Maroc parce que vous savez, l'écriture, c'est forcément un acte subversif. Quoi qu'on écrive, c'est subversif et il y a une forme de rébellion dans le fait d'écrire. Il y a une jeune femme qui est venue voir ma mère à la sortie de la conférence et qui lui a dit « Madame, je voudrais savoir, est-ce que vous en avez voulu à votre fille des livres qu'elle a écrits qui étaient très crus, qui sont un peu durs ? Est-ce que vous vous êtes fâchée ? Parce que moi, j'ai très envie d'écrire, mais j'ai peur de me fâcher avec ma famille, avec mon entourage, avec les gens qui me connaissent. » Et évidemment, ma mère l'a rassurée et l'a poussée au crime. Voilà, j'espère qu'elle écrira.
Vous ne vous êtes pas fâchée avec votre famille ?
Non, pas du tout. Au contraire, on s'aime plus que jamais.
Bon, c'est l'essentiel. Tahar Benjelloun, qui avait reçu le prix Goncourt, c'était il y a une trentaine d'années, a dit que vous avez pas fait le roman maghrébin que l'on attend sur la situation des femmes, le couscous et tout le folklore. On reconnaît l'humour de Tahar Benjelloun, mais il y a aussi quelque chose qui raconte de votre littérature.
Oui, bien sûr. Puis moi, je suis en France depuis maintenant plus de 15 ans et je me rendais très bien compte. Enfin, je suis très lucide sur ce qu'on pouvait attendre de moi en littérature. Finalement, que je raconte l'identité, les femmes, la douleur, l'honneur, les Arabes, le sang. Non, mais voilà, c'est des thèmes. Puis d'ailleurs, quand j'ai rendu mon premier manuscrit, plusieurs personnes à qui j'ai parlé m'ont dit « Ah, ça va être encore un truc sur l'identité, la fille maghrébine qui arrive. » Donc, j'avais envie de surprendre, évidemment, et de montrer aussi, et c'est très important, que les Maghrébins, les Arabes, ont accès à l'universel, peuvent raconter des histoires qui parlent à tout le monde et ne sont pas obligés de ne parler que d'histoires identitaires ou folkloriques.
Peuvent s'emparer d'un fait divers qui s'est passé à New York, raconter une histoire qui se passe pour l'essentiel dans un appartement bourgeois de Paris.
Voilà, le monde nous appartient à nous aussi, on peut l'ausculter tout aussi bien qu'un Chinois, un Anglais ou je ne sais qui d'autre.
Et raconter des histoires terribles et non pas des contes des mille et une nuits, Nounou qui commet un double infanticide. Vous explorez ce qu'il y a de pire dans notre société, la mort de l'enfant, des enfants, pourquoi ?
J'explore pas la mort des enfants en elle-même, mais j'explore effectivement la terreur et le cauchemar que représente la mort des enfants pour n'importe quelle famille. Ce qui m'intéressait, c'était les interactions entre cette famille bourgeoise, cette nounou qui est une femme déclassée, ces gens qui n'ont pas l'habitude du tout de la mixité sociale, qui n'ont pas l'habitude de la hiérarchie et qui vont se retrouver pour la première fois de leur jeune vie, puisque ce sont des trentenaires, confrontés avec une étrangère, mais dans tous les sens du terme, femme qui va entrer dans leur intimité, avec qui ils vont essayer d'être très gentils, d'appliquer leurs principes bobos, si je puis dire, leurs principes bien pensants, qui sont très bien, c'est-à-dire que ce sont des gens tolérants, ouverts, pas racistes, gentils, mais qui finalement, une fois que leurs principes se frottent à la réalité, ben, se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est que bien faire. Et la question du livre aussi, c'est qu'est-ce que c'est que bien faire dans ce type de relations qui sont toujours profondément ambiguës.
Ambigu parce que ça raconte aussi la lutte des classes, la domination, d'une certaine manière la misère du monde. Et il faut lire ce passage extrêmement puissant où la mélancolie de la nounou devient de la haine pure, de la haine sainte. Ça, c'est quelque chose que vous avez raconté. Il y a une forme de joie à faire trembler le lecteur.
Oui, bien sûr, il y a cette joie-là de faire trembler le lecteur, puis d'avoir la sensation de l'avoir harponné, de l'avoir avec soi. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais choisi de faire un début aussi violent, mais c'est justement pour ça, parce que j'avais vraiment envie d'avoir le lecteur avec moi pendant tout le livre. Et vraiment, en l'écrivant, je sentais une sorte de lecteur imaginaire qui était là, qui était mon complice, qui assistait avec moi à cette dérive, à cette solitude de la nounou, et ça, c'était un sentiment très fort.
Vous êtes romancière et journaliste, très impliquée dans ce qui se passe au Maroc. Il y a deux jours, justement, deux adolescentes ont été arrêtées à Marrakech parce qu'elles s'embrassaient sur le toit d'une maison. Sana et Hajar, elles ont 16 et 17 ans, poursuivies par homosexualité. Elles risquent la prison. Comment est-ce que vous expliquez ce qui semble totalement absurde et fou ?
Comment l'expliquer ? Bon, ça serait assez long. Il est évident d'abord que la législation au Maroc est complètement moyenâgeuse, complètement déconnectée de la réalité, puisque au Maroc, il y a quand même une espèce de dualité entre des normes qui sont complètement anciennes, qui interdisent les relations sexuelles hors mariage, qui interdisent l'homosexualité, qui pénalisent l'adultère, et des pratiques qui sont complètement à l'inverse de ces normes, puisque il faut pas être hypocrite. Tout le monde sait très bien que tous les Marocains ont une vie sexuelle hors du mariage, et c'est tout à fait normal qu'il existe des homosexuels, et on maintient cette espèce de dichotomie, on maintient ce fossé parce que ça arrange le système, ça arrange certains, que je pense que l'humiliation du citoyen au quotidien et le fait de le maintenir sous cette espèce de chape de plomb, elle favorise aussi un système politique qui est celui de la hougra qui est l'humiliation, l'indignité, l'abus de pouvoir, et je pense que voilà, qu'il est temps aussi que les citoyens prennent ça en main, se rebellent contre ça, que à mon avis, ça n'a aucun rapport avec la religion, parce que vous pouvez parler avec beaucoup d'imams, beaucoup de théologiens extrêmement éclairés qui vous expliqueront que ça n'a aucun rapport. Et voilà, la question, c'est la question des droits de l'homme, la question des droits sexuels, de la dignité, et en particulier de la dignité du corps de la femme. Et voilà, imaginez une femme qui ne soit à personne, qui ne soit ni une sœur, ni une mère, ni une épouse, mais une femme, un individu à part entière.
Libre.
Voilà, libre.
Comme vous.
Oui, exactement, j'espère.
Merci infiniment, Leïla Slimani. Chanson douce, c'est magnifique et c'est publié chez Gallimard.
Merci à vous, Ali Badou. Il est 8h-3 sur Inter.